You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce mardi, la jeune Saoudienne qui allait être expulsée de la Thaïlande ne sera finalement pas extradée. En Australie, un important groupe de réinstallation de migrants souhaite que les contributions des réfugiés et des migrants soient mieux reconnues dans le débat sur l'immigration. Et puis les Socceroos se préparent pour leur deuxième match de la Asian Cup qui aura lieu vendredi prochain. La jeune Saoudienne qui allait être expulsée de la Thaïlande ne sera finalement pas extradée. Accompagnée de représentants du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, elle a pu quitter l'aéroport de Bangkok pour une destination secrète. Le 6 décembre dernier, le ministère australien de l'Intérieur a accordé à Mademoiselle Al-Kunun un visa de 3 mois. Écoutez Giuseppe De Vincentis du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU en Thaïlande.
An assessment has been initiated, independent assessment by 2 UNHCR colleagues. I cannot, of course, figure out what will be the decision, but we have strongly advocated with the Thai government and we have received reassurances that pending the completion of the assessment and any decision, she would not be sent back, because that would be a case of refoulement and where her personal freedom could be put at risk.
Et maintenant, ce reportage depuis la Thaïlande de Carole Izou pour Radio France Internationale.
Ils vont me tuer si je rentre. C'est avec ces mots que Rahaf Al-Kunun a enflammé les réseaux sociaux. Barricadée dans une chambre d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport de Bangkok depuis très tôt ce matin, la jeune femme de 18 ans diffuse des images en direct à des dizaines de milliers d'abonnés Twitter et explique qu'elle est traitée par sa famille comme une prisonnière. Et ils m'ont enfermée dans une chambre pendant 6 mois à cause d'une coupe de cheveux, dit-elle, avant d'ajouter que plusieurs membres de sa famille menacent de la massacrer. Rahaf avait soigneusement planifié sa fuite. Elle a profité d'un voyage en famille au Koweït, où les femmes sont autorisées à voyager seules, contrairement à l'Arabie Saoudite. Elle est en possession d'un visa de 3 mois pour l'Australie, où elle comptait demander le statut de réfugiée politique. D'abord déterminée ce matin à la renvoyer pour satisfaire à la demande de sa famille, les autorités thaïlandaises ont fait volte-face et autorisé une rencontre avec des représentants du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Ils ont quitté ensemble l'aéroport pour une destination tenue secrète. L'institution devrait statuer sur son cas dans les prochains jours.
Emus Australia, un important groupe de réinstallation de migrants, souhaite que les contributions des réfugiés et des migrants soient mieux reconnues dans le débat sur l'immigration. Emus Australia a déclaré que les manifestations d'extrême droite du week-end dernier à St Kilda, à Melbourne, ont éclipsé la contribution positive des migrants sur le plan économique et social. Le porte-parole d'Emus, Larry Nowell, a déclaré à SBS News qu'il était vital de considérer la politique de migration de l'Australie comme un succès.
These debates wax and wane, and often they're influenced by things that are happening internationally. People are talking about this sort of rise of nationalism and a reaction to globalization and so on. But I think most people when they meet a migrant or a refugee come to the realization that, they're just like the rest of us. They're human beings, their blood is red and they have hopes and dreams for their children.
Les îles Fidji ont déclaré que le djihadiste de Daesh, Neil Prakash, n'était pas citoyen de ce pays, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être privé de sa citoyenneté australienne. Le directeur de l'immigration des Fidji a déclaré au journal The Sydney Morning Herald que le pays n'autorisait pas la double citoyenneté avant 2009 et que Neil Prakash était né en Australie et n'avait jamais demandé la citoyenneté fidjienne. Pour être qualifié de citoyen fidjien, Neil Prakash aurait dû avoir vécu dans le pays au moins 3 ans sur 5 avant de présenter une demande de citoyenneté, ce qu'il n'a jamais fait. La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, arrive en Inde ce mardi pour participer à des pourparlers visant à renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La sénatrice Payne rencontrera un certain nombre de ministres indiens, dont le premier ministre Narendra Modi. On prévoit que l'économie indienne sera la plus grande économie, dont la croissance sera la plus rapide au monde au cours des 2 prochaines décennies. Le sénateur du Parti libéral-démocrate David Lionhelm quittera la politique fédérale le mois prochain pour se présenter aux élections de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le politicien controversé croit que ses objectifs peuvent être mieux atteints au Parlement de l'État. Le sénateur a été maintes fois critiqué pour ses opinions, notamment sur l'immigration. Les électeurs de la Nouvelle-Galles du Sud se rendent aux urnes le 23 mars prochain. On l'écoute.
There's liquor licensing, smoking, where you can smoke, vaping, where you can vape and mostly where you can't vape, gambling, there's the lockouts in Sydney, there's assisted suicide, there's cannabis legalisation. All of those are essentially nanny state issues.
Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a publié une lettre ouverte aux manifestants des Gilets jaunes en France, les demandant à poursuivre leur combat. Luigi Di Maio a félicité les manifestants pour leur intérêt pour la démocratie directe, tout en reprochant au président français Emmanuel Macron de ne s'intéresser qu'à la protection des intérêts de l'élite. Et puis le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé hier, lundi, sur TF1, de nouvelles mesures d'ordre public. On l'écoute.
Il faut préserver la liberté de manifester en France. Et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées, aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. À faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagée, de façon à ce que ce soit les casseurs qui payent, et pas les contribuables, qui payent pour les dommages qui sont causés. Nous ne pouvons pas accepter, ils ne peuvent pas accepter, que certains profitent de ces manifestations pour déborder, pour casser, pour brûler. Cela, je vous le dis calmement, je vous le dis fermement, cela n'auront jamais le dernier mot dans notre pays. Alors,
et on reviendra largement sur les nouvelles de France tout à l'heure avec Émile Matasso. En France toujours, le procès du cardinal Philippe Barbarin s'est ouvert hier, lundi à Lyon. Il est poursuivi avec 5 autres personnes pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Il rejette les allégations contre lui. L'un des plaignants dans l'affaire déclare que c'est un soulagement que l'affaire soit finalement entendue.
Si vous voulez, psychologiquement, comme on n'a jamais
psychologically, as we've never been able to talk for 25 years after the facts, being together is a real liberation, and that allows us to undertake this action.
La Syrie avec le retrait des troupes américaines, le président Donald Trump semble avoir reculé sur le calendrier du retrait. Le 19 décembre dernier, il l'avait présenté comme imminent. Précision de Anne Corpé pour RFI.
Donald Trump n'a jamais donné de date précise pour le retrait des troupes de Syrie, mais il l'évoque de manière beaucoup plus circonspecte que le mois dernier. « Nous quitterons la Syrie à un rythme adapté tout en continuant à combattre l'État islamique et à faire preuve de prudence », écrit-il ce lundi sur Twitter. Le président s'en prend au New York Times, qu'il accuse de propager de fausses nouvelles. Le quotidien explique ce lundi que l'administration a reculé sur la question du retrait rapide de Syrie. Le président se défend d'avoir modifié son discours, mais le 19 décembre, il avait déclaré dans une vidéo sur Twitter « Nous avons gagné contre l'État islamique, il est temps de rentrer, nos soldats rentrent maintenant ». Ce qui avait logiquement laissé penser à un retour imminent des troupes. Cette annonce avait suscité de vives réactions et la démission de James Mattis, le secrétaire à la Défense, ulcéré de voir Washington abandonner ses alliés kurdes. Début janvier, le président avait semblé déjà reculer sur le calendrier. Après une rencontre avec un sénateur républicain hostile au retrait des troupes, il avait déclaré que le retour des 2000 soldats américains déployés en Syrie prendrait, je cite, « un certain temps ».
Le pape François a mis en garde contre une résurgence des mouvements nationalistes et populistes. Dans son discours annuel aux diplomates, le pape a suggéré que de tels mouvements remontent de 100 ans en arrière, dans la période dangereuse de l'entre-deux-guerres. Le pape a également critiqué les pays qui tentent de résoudre la crise migratoire actuelle par des actions unilatérales.
Ritengo dunque importante.
To my mind, it is important that today too there should be no lessening of the desire for serene and constructive discussions between states. It is clear, though, that relationships within the international community and the multilateral system as a whole are experiencing a period of difficulty with the resurgence of nationalistic tendencies at odds with the vocation of the international organizations to be a setting for dialogue and encounter for all countries.
En Afrique, au Gabon, une tentative de coup d'État hier a échoué. Des militaires ont mené une tentative de putsch alors que le chef de l'État, Ali Bongo, malade, est au Maroc en convalescence. Il y a 40 ans, tombé le régime des Khmers Rouges au Cambodge, les troupes vietnamiennes pénétraient dans Phnom Penh le 7 janvier 1979. L'armée de Pol Pot était en déroute et repoussée vers la frontière thaïlandaise. Juliette Buchez, RFI.
C'est habillé de blanc que plus de 50 000 personnes ont assisté à la commémoration au stade olympique ce matin. Parmi eux, Ratana, il avait 10 ans lorsque le régime Khmer Rouge est tombé le 7 janvier 1979. Il assiste chaque année aux commémorations.
Le 7 janvier 1979 est une date historique importante. On nous a libérés du régime génocidaire. Les jeunes aujourd'hui savent qu'ils doivent connaître cette histoire.
Et dans la foule massée sur les gradins, la jeunesse est omniprésente. Au Cambodge, l'histoire des Khmer Rouges est au programme scolaire depuis seulement 10 ans. Ken a presque 17 ans et son lycée était invité à la cérémonie.
Nous devrions bien connaître cette histoire pour que le régime Khmer Rouge ne revienne pas.
En dehors du stade, dont l'accès se fait sur invitation, le 7 janvier, c'est surtout un jour férié comme un autre. Kunti a 68 ans, elle est venue vendre ses légumes au marché voisin comme d'habitude.
C'est important, très important, mais je suis pauvre, donc je ne peux pas rester à la maison.
Kunti accepte de parler ouvertement de son histoire, mais dans les autres allées du marché, la simple évocation des Khmers Rouges suscite l'inquiétude et des regards fuyants. Au Cambodge, le 7 janvier marque la fin du régime de Pol Pot, mais pour certains, il marque avant tout l'invasion du Cambodge par les Vietnamiens, dont l'armée est restée 10 ans sur place.
Un mot de sport et les Socceroos, confiants de rebondir après la défaite 1-0 face à la Jordanie dans le cadre de la Asian Cup. Le sélectionneur adjoint René Mullenstein déclare que le focus sera le style de jeu des Palestiniens. Les Socceroos joueront ce vendredi contre la Palestine.
Pour nous maintenant, c'est de ne pas dweller sur ça. C'est évidemment un disappointment pour les joueurs et le staff, mais... I think we're very confident to bounce back from this for sure. We're going to expect the same thing against Palestine and Syria. A very defensive setup. It's a challenge that we have to overcome. We're going to have a lot of the ball. And the most important thing is for us to use that well, to be patient, to keep the quality, to keep the speed of play, and then eventually open them up and then be clinical when the chances present themselves.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, Perth maximal de 34 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 22, Hobart 25, Canberra 28, Sydney 29, Brisbane 30, Cairns 33, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, la jeune Saoudienne qui allait être expulsée de la Thaïlande ne sera finalement pas extradée après une intervention du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et puis en Australie, un important groupe de réinstallation de migrants souhaite que les contributions des réfugiés et des migrants soient mieux reconnues dans le débat sur l'immigration. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
sbs.com.au